pour toi. Aujourd'hui, on lit pour toi
Les As de l'info. Éliminer la pollution plastique, un gros défi. Par Clémence Tessier, La Liberté. Publié le 2 mai sur le site Les As de l'info. Dans les derniers jours, des représentants de près de 175 pays étaient regroupés à Ottawa. Le but? S'entendre sur des règles pour éliminer la pollution plastique d'ici 2040. Elles devront être respectées par tous les pays. Mais s'entendre, ce n'est vraiment pas simple. On t'explique. Des avis différents. C'est le ministre de l'Environnement, Stephen Guilbeault, qui représentait le Canada à cette rencontre. Il était accompagné de sa collègue Julie Dabruzin. On lui a parlé. Tout le monde est d'accord que la pollution plastique est un problème. Ce qui est plus compliqué, c'est de s'entendre sur les moyens de le résoudre, nous a expliqué Julie. Certains pays, comme le Rwanda et le Pérou, veulent qu'on réduise de moitié ou presque la création de nouveaux plastiques. D'autres pays, comme l'Arabie saoudite, s'y opposent. Pourquoi? L'Arabie saoudite est l'un des plus grands producteurs d'une ressource essentielle à la création du plastique. Question. À partir de quelles ressources le plastique est-il fabriqué? Caoutchouc? Pétrole? Slime? Gélatine? La réponse? Le pétrole. Les délégués canadiens, eux, sont d'accord pour discuter d'une diminution de la production de plastique lors de la prochaine séance de négociation. Mais selon eux, la réduire de presque moitié serait très difficile à faire. Tous les pays ont une relation différente avec le plastique. Certains sont des producteurs, d'autres voient les impacts de la pollution plastique sur leur environnement. C'est un peu compliqué de s'entendre parfois, explique Julie Dabruzin. Le défi? Trouver un accord. En tout, 5 rencontres sur le plastique ont été organisées. Celle d'Ottawa était la 4e. Il en reste donc une. Elle aura lieu en novembre, en Corée du Sud, en Asie. Au bout de celle-ci, les délégués devront se mettre d'accord sur la marche à suivre pour mettre fin à la pollution plastique. Pas facile. Pour tenter de réduire la pollution, le Canada a déjà commencé à interdire certains plastiques à usage unique. De l'espoir, Julie Dabruzin est optimiste. D'habitude, arriver à conclure un accord peut prendre des dizaines d'années. Nous, on prévoit le faire en 2 ans. Je crois que c'est parce que tous les pays voient que les gens veulent un changement. Même s'il se dit déçu que les délégués ne soient pas encore arrivés à une entente, Patrick Bonin, porte-parole de Greenpeace, ne perd pas espoir. Il rappelle qu'en attendant que les pays trouvent une solution, on peut tous contribuer à protéger la planète. Des fois, c'est dur de voir comment on peut avoir un impact individuellement, mais chaque geste compte. De plus en plus de personnes se soucient de l'environnement et se mobilisent pour faire la différence. On n'est pas seul là-dedans. Les toilettes mixtes interdites dans les écoles. Par Caroline Bouffard, publié le 1er mai 2024 sur le site Les As de l'info. Le ministre de l'Éducation du Québec, Bernard Brinville, a annoncé mercredi qu'il interdisait les toilettes mixtes dans les écoles primaires et secondaires publiques de la province. Déjà en septembre, il avait dit qu'il était contre ce genre de toilettes. Et ça avait fait toute une histoire. Je t'explique. C'est quoi une toilette mixte? Les toilettes mixtes sont des toilettes pour tout le monde. Les cabines restent privées, mais l'espace lavabo est ouvert et partagé. Les filles, les garçons, les personnes trans ou non-binaires peuvent les utiliser. Une personne non-binaire, c'est quelqu'un qui ne se sent ni entièrement garçon, ni entièrement fille. Dès aujourd'hui, les écoles qui construisent ou rénovent des toilettes avec plusieurs cabines n'ont pas le droit de faire des toilettes mixtes. Les écoles sont obligées d'offrir des toilettes réservées aux femmes et des toilettes réservées aux hommes. Les toilettes mixtes qui existent déjà n'ont pas besoin d'être transformées. Mais on demande aussi aux écoles de prévoir des toilettes individuelles, accessibles à tous, peu importe le genre ou les limitations physiques de la personne. De cette façon, tout le monde aura le choix de la toilette qui lui convient le mieux. Un débat qui dure depuis des mois. Déjà au mois de septembre, le ministre Drainville avait dit qu'il était contre les toilettes mixtes. À l'époque, il disait que c'était pour éviter qu'il y ait de l'intimidation. Quand il avait été questionné par les journalistes, il avait reconnu ne pas avoir demandé l'avis d'experts. Quand un journaliste lui a demandé sur quoi il se basait pour prendre cette décision, il a répondu « Sur l'expertise d'intimité, monsieur. À un moment donné, les garçons et les filles ont le droit d'avoir leur espace. » En décembre, le gouvernement a mis sur pied un groupe d'experts appelé le Comité des sages pour l'aider à prendre des décisions concernant tout ce qui touche à l'identité de genre. Mais pour les toilettes mixtes, le ministre Drainville n'a pas attendu l'avis du comité. La ministre de la Famille, Suzanne Roy, qui est responsable du Comité des sages, a approuvé la décision de son collègue, le ministre Drainville. Mais chez les groupes LGBTQ+, on ne comprend pas pourquoi un comité de sages a été créé si c'est pour ne pas attendre ses recommandations. Toi, quel autre changement aimerais-tu voir dans ton école? Insulte au Parlement, un politicien expulsé, par Caroline Bouffard, publié le 30 avril 2024 sur le site Les As de l'Info. Pierre Poilievre, le chef du Parti conservateur du Canada, a été expulsé de la Chambre des communes il y a quelques jours, là où les politiciens débattent à Ottawa. Pourquoi? Parce qu'il a traité Justin Trudeau d'extrémiste, de raciste et de cinglé. Eh oui, même au Parlement, on ne peut pas tout dire. Pierre Poilievre se l'est fait rappelé le 30 avril dernier. Pendant les débats, le chef conservateur a utilisé plusieurs mots jugés non acceptables en parlant du premier ministre Justin Trudeau. « C'est une politique cinglée de ce premier ministre cinglé », a-t-il dit en anglais. Le président de la Chambre des communes, Greg Fergus, est alors intervenu. Son rôle ressemble un peu à celui d'un arbitre. Il veille à ce que les débats entre les élus se passent dans le respect. Il a demandé 4 fois à Pierre Poilievre de retirer ses propos, mais ce dernier a refusé. Greg Fergus l'a alors expulsé. Tous les députés du Parti conservateur sont aussi sortis par solidarité. Pierre Poilievre a dit plus tard sur les réseaux sociaux qu'il avait été censuré, c'est-à-dire qu'il trouve qu'il a été brimé dans sa liberté d'expression. Une liste de mots interdits. Ce n'est pas la première fois qu'on considère qu'un politicien a dit des mots inacceptables au Parlement. À Ottawa comme à Québec, on ne peut pas tout faire et tout dire pendant les débats. Les élus doivent être respectueux, ne pas insulter leurs adversaires et ne pas nuire aux discussions. Voici quelques autres expressions qui ont été jugées inappropriées par le passé au Parlement d'Ottawa. Menteur, génie diabolique, pète, sans colonne vertébrale, sac de vin. À Québec, il y a une liste de mots interdits pendant les débats. On les appelle les propos non parlementaires. La liste contient plus de 400 mots ou expressions. Quelques mots interdits à l'Assemblée nationale à Québec. Bonhomme 7 heures, boss des bécosses, goon, Lucky Look du Twitter, Madame la Marquise, Ticoun, tête de Slinky, Dupont et Dupont, Ding et Dong. Est-ce que, selon toi, les politiciens devraient être libres de tout dire ou faut-il bannir certains mots des débats? Pour ou contre interdire la cigarette à une génération pour toujours, par Caroline Bouffard, publié le 29 avril 2024 sur le site Les As de l'Info. Dernièrement, on t'a parlé du Royaume-Uni qui pourrait être le premier pays à interdire la vente de cigarettes à toute une génération. Le gouvernement britannique veut empêcher tous les jeunes nés après le 1er janvier 2009 d'acheter des cigarettes et des vapoteuses, même une fois adultes. D'autres pays ont déjà pensé faire la même chose. Est-ce une bonne idée? Regardons ensemble les pour ou les contre. Les arguments pour. Fumer est mauvais pour la santé. Le tabac et les autres produits chimiques qu'on retrouve dans la cigarette et la vapoteuse sont la cause de plusieurs cancers et de maladies graves, même mortelles. La fumée de cigarette est également dangereuse pour les non-fumeurs qui la respirent. Finalement, la nicotine présente dans les produits du tabac cause une dépendance. Les gens qui commencent à fumer ont beaucoup de difficultés à arrêter. Fumer coûte cher. Je ne parle pas du prix que coûte un paquet de cigarettes. Je parle du coût que représente cette habitude pour la société. Les fumeurs qui développent des maladies doivent être soignés. Médecins, hôpitaux, traitements. Ce sont tous les citoyens qui paient pour ces soins avec leurs impôts. Des jeunes fumeurs deviennent des adultes fumeurs. Les statistiques disent que 4 fumeurs sur 5 ont commencé à fumer avant l'âge de 20 ans. En empêchant les jeunes de prendre cette habitude, on réduit de beaucoup le nombre d'adultes qui fumeront dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. Le but est d'éliminer complètement la cigarette. Les arguments contre. C'est aux gens de prendre leurs propres décisions. Le gouvernement n'a pas à jouer aux parents avec ses citoyens. Dans un pays où on est libre de vivre comme on veut, ce genre d'interdiction est controversé. Ça ouvre la porte à d'autres lois du genre. Est-ce qu'on interdit le sucre parce que c'est mauvais pour la santé? Ou l'alcool? Non. Ce sont les gens qui font leur propre choix. Des gens vont perdre leur emploi. Moins de ventes de tabac, cela veut dire moins de boulot pour les personnes qui travaillent dans cette industrie. C'est aussi des pertes de revenus pour les tabagies et les dépanneurs. Cette nouvelle loi n'est pas une bonne nouvelle pour eux. Vers un marché illégal de cigarettes. Tu le sais peut-être. Avec les chips avant le souper ou les jeux vidéo la semaine, quand quelque chose est interdit ou limité, cette chose devient parfois encore plus attirante. C'est le scénario que certains craignent avec les cigarettes. Ils disent aussi qu'elles ne disparaîtront pas et qu'elles vont tout simplement se vendre sur le marché noir. Or, marché illégal égale plus de criminalité. On créerait de nouveaux problèmes en voulant en régler un. En bref, pour fumer est mauvais pour la santé, ça coûte très cher à la société, les jeunes fumeurs deviennent des adultes fumeurs. Contre, c'est aux gens de décider. Des gens vont perdre leur emploi. Ça favorise le marché illégal. Toi, es-tu pour ou contre interdire la cigarette à toute une génération? Découvre le gagnant de la Super Expo Science par Marie-Lise Beaudoin, publié le 27 avril 2024 sur le site Les As de l'Info. Lorsqu'il avait 9 ans, une optométrice a appris à Johann Abraham Earhart qu'il était daltonien. On lui a alors dit qu'il ne pourrait jamais devenir pilote d'avion. 5 ans plus tard, cet élève de deuxième secondaire a imaginé un système qui pourrait tout changer. Il a d'ailleurs remporté le premier prix de la Super Expo Science Hydro-Québec dimanche dernier. Quel est ce projet spécial? Pourra-t-il un jour piloter un avion? Toutes ces réponses, juste ici. Peux-tu m'expliquer c'est quoi le daltonisme? Les personnes atteintes de daltonisme ont de la difficulté à distinguer certaines couleurs. On voit les couleurs grâce à des éléments spécifiques dans nos yeux. Et lorsque quelqu'un est daltonien, c'est parce qu'il lui manque ces éléments ou qu'il ne fonctionne pas bien. Moi, j'ai de la difficulté à distinguer les couleurs qui contiennent du rouge. Quelle difficulté une personne atteinte de daltonisme peut-elle rencontrer? À l'école, surtout à la maternelle, les enfants qui ne sont pas conscients de leur daltonisme peuvent avoir de la difficulté à apprendre certaines notions, puisque les jeux éducatifs sont souvent basés sur les couleurs. Certaines personnes daltoniennes ont également de la misère à distinguer les feux de signalisation. Toi, quel impact ça a dans ta vie de tous les jours? Personnellement, je rencontre souvent des problèmes à l'école, notamment lorsque quelqu'un écrit au tableau avec des couleurs que j'ai du mal à distinguer. Lorsque ça arrive, je dois demander qu'on change les couleurs, sinon je ne suis pas en mesure de lire ce qui est écrit. Peux-tu m'expliquer ton projet? Mon projet a pour but de détecter le daltonisme en utilisant les signaux du cerveau. Pour cela, j'utilise ce qu'on appelle des électrodes, que je place sur ma tête à des endroits spécifiques. Les électrodes servent à enregistrer ces signaux. Ensuite, j'observe différentes paires de couleurs, certaines que je peux bien voir et d'autres non. Mon cerveau émet des signaux seulement si j'observe des couleurs que je peux distinguer. Grâce à mon projet, je suis en mesure d'identifier précisément quelles couleurs posent problème et avec quelles couleurs on peut les remplacer. Pour un pilote d'avion daltonien, on pourrait créer un mode sur l'écran d'affichage qui changerait les couleurs et qui sait, peut-être que, dans 10 ans, je pourrais piloter un avion. Envisages-tu de poursuivre une carrière dans le domaine des sciences? Absolument. Je veux étudier dans le domaine des neurosciences et me concentrer sur des projets qui auront un impact significatif. Un clown et son héros. Publié le 4 mai 2024 sur le site Les As de l'Info. Guillaume Vermette, le clown humanitaire ami des As de l'Info, est présentement en Géorgie, un pays voisin de la Russie. Comme toujours, il s'est rendu là-bas dans le but de faire sourire les enfants. Mais cette fois, il est accompagné d'une personne très spéciale et célèbre, Patch Adams. Le connais-tu? Un film a déjà été fait en s'inspirant de sa vie. Nous avons demandé à Guillaume de te le présenter à sa façon. En quelques mots, comment présenterais-tu Patch Adams? Patch Adams est un clown humanitaire des États-Unis et un monsieur incroyable qui rêve d'un monde sans guerre et sans violence. Il a passé sa vie à travailler très fort pour essayer de changer le monde avec son organisme qui s'appelle Gesundheit Institute. Même s'il a maintenant 78 ans et est amputé d'une jambe, il continue de faire sourire les enfants dans les hôpitaux, les camps de réfugiés et les orphelinats un peu partout sur la planète. C'est aussi un médecin qui a offert pendant des années ses services complètement gratuitement. Pour toi, qu'est-ce qu'il représente? C'est en quelque sorte lui qui a inventé le métier de clown humanitaire. Et le clown humanitaire, c'est ma passion, ma vocation. Ça me rend vraiment heureux. Je ne sais pas si je pourrais faire ça aujourd'hui sans tout le travail qu'il a fait pendant des dizaines d'années, avant même que je sois né. Je suis donc très reconnaissant et admiratif. Patch, c'est aussi un très bon ami. Une fois, il est venu à Montréal pour seulement 3 jours. À cause de sa célébrité, tous les journalistes lui couraient après et il avait un horaire hyper chargé, digne d'un premier ministre. À ce moment, je vivais des choses très difficiles dans ma vie. Quand il a su que je n'allais pas bien, il a immédiatement décidé d'annuler tous ses engagements et de dire non à tous les journalistes pour venir prendre soin de moi. Je pense que, de tous les accomplissements de Patch Adams, ce qu'il sait faire de mieux, c'est être un bon ami. Il est plein d'amour et de gentillesse et m'inspire beaucoup à être une meilleure personne. Quel est le but de cette mission que vous faites ensemble en ce moment? À chaque année, depuis environ 40 ans, Patch organisait un gros projet en Russie. Il invitait 40 clowns humanitaires à répandre du bonheur et de l'amour dans des orphelinats et des hôpitaux. J'ai moi-même participé à ce projet pendant 7 ans. Les autres clowns participants sont devenus des amis vraiment proches, un peu comme ma deuxième famille. Mais depuis la COVID et la guerre, ce n'est plus possible d'aller en Russie. Patch a donc décidé de reprendre le projet avec la même équipe, mais cette fois en Géorgie, un petit pays au sud de la Russie. J'y retrouve donc plein d'amis que je n'ai pas vus depuis des années et ça me remplit de bonheur. Crois-tu que chacun de nous a un peu de clown en lui ou c'est un don qui n'est pas donné à tout le monde? Oui, je pense que tout le monde peut appliquer les principes du clown dans son quotidien. Joie, authenticité, simplicité, ouverture, légèreté. L'objectif d'un clown n'est pas d'être drôle, mais de créer une belle connexion humaine avec le public. Je pense que tout le monde peut faire ça à sa manière et que ça peut changer le monde, un sourire à la fois. Quel est le meilleur conseil que t'a donné Patch Adams? Les apprentissages les plus importants de Patch Adams ne me viennent pas de ses conseils, mais plutôt de l'exemple. Lorsque je le regarde avec des enfants malades ou des personnes âgées, d'une manière si simple et pleine d'amour, ça me ramène à l'essentiel. J'ai été à l'école de clown et j'ai appris plein de techniques et de principes rigoureux pour pratiquer mon métier. Patch n'applique pratiquement aucun de ces principes. Et pourtant, c'est l'un des meilleurs clowns humanitaires que je connais. Il me rappelle qu'on se pose souvent bien trop de questions, qu'on se met souvent beaucoup trop de pression pour être bon ou bien paraître, que la seule chose qui importe vraiment, c'est d'être ici et maintenant, dans l'amour et la joie. Crois-tu que les clowns humanitaires font vraiment une différence dans la vie des gens qui vivent des guerres? J'en suis persuadé. Par exemple, j'ai souvent des parents qui viennent me voir en pleurant pour me remercier chaleureusement en me disant qu'ils n'avaient pas vu leur enfant rire ou sourire depuis des mois, depuis la guerre. Si on voit un ami dans la cour de récré ou notre petit frère qui semble triste et qu'on veut le faire sourire, comment doit-on s'y prendre? Je pense que de simplement aller voir la personne pour lui dire qu'on l'aime, lui faire un sourire ou encore un gros câlin, peut faire une immense différence et beaucoup de bien à la personne, mais ce n'est pas grave si la personne ne sourit pas. Car des fois, les gens sont trop tristes pour sourire, mais ça ne veut pas dire que notre présence ne leur fait pas du bien. Si tu ne l'as pas déjà vu, les As de l'info te suggèrent de regarder le film Patch Adams. On y raconte l'histoire du héros et bon ami de Guillaume. C'est un film plutôt ancien, 1998, mais toute la famille devrait adorer. À Montréal, un arrondissement veut voir les étoiles. Par Tom Himmler, publié le 24 avril 2024 sur le site Les As de l'Info. La lumière artificielle que nous utilisons la nuit bouleverse la faune et empêche les habitants des villes de voir une grande partie des étoiles. Pour essayer de changer les choses, un quartier de Montréal s'est associé avec la Réserve internationale de ciel étoilé du Mont Mégantic. Voici leurs idées. C'est l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve qui a décidé de s'attaquer à la pollution lumineuse. La pollution lumineuse, c'est l'ensemble des lumières artificielles que l'on utilise la nuit comme des lampadaires ou bien des phares de voiture. Cette lumière, qui n'est pas naturelle, chamboule la vie des plantes, des animaux et des insectes. Si tu habites en ville, c'est cette pollution lumineuse qui t'empêche de voir une grande partie des étoiles. Près du Mont Mégantic, par contre, voir les étoiles n'est pas un problème. La région a été la première zone certifiée par la Dark Sky Association, un organisme qui recense les plus belles zones de ciel étoilé à travers le monde. La Réserve internationale de ciel étoilé du Mont Mégantic s'étend sur 5500 km², c'est plus de 10 fois la taille de l'île de Montréal. La Réserve internationale de ciel étoilé du Mont Mégantic. Comme tu peux voir, il y a beaucoup moins de lumière près du Mont Mégantic qu'à Montréal. Dans cette zone, 34 municipalités, dont la ville de Sherbrooke, ont mis en place plusieurs mesures pour réduire la pollution lumineuse. On a par exemple changé plusieurs milliers de lampadaires pour avoir un éclairage plus doux. Ces mesures permettent à l'Observatoire du Mont Mégantic de mener des recherches scientifiques. Un guide pour la ville. L'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve a donc décidé de s'inspirer de certaines des idées de la réserve pour diminuer la pollution lumineuse dans la ville. Ensemble, ils ont créé un guide de bonnes pratiques en matière d'éclairage. Comment réduire la pollution lumineuse? Orienter les lumières vers le bas. Diminuer la puissance de l'éclairage. Utiliser des ampoules plus jaunes. Ce guide est surtout destiné aux entreprises qui émettent beaucoup de lumière avec leurs enseignes ou bien qui sont ouvertes la nuit. Il n'est pas obligatoire. À Montréal, il y a déjà des règles pour l'éclairage, mais le maire du quartier Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Pierre Le Sarblais, voulait aller plus loin. Il espère que les habitants de son quartier vont pouvoir profiter du ciel étoilé eux aussi. Et toi, quel est ton endroit préféré pour regarder les étoiles? C'était Gilbert. À une prochaine lecture!
C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans 2 semaines. Merci à toute l'équipe.